Dieu sait, mais... OK. Donc, je m'appelle Benoît Chalifou, je suis un collaborateur du mouvement du Comité pour la République du Canada, du mouvement de M. Larouche. Je suis d'origine québécoise, mais je demeure en France depuis une quinzaine d'années. Et je participe au combat en Europe. Et si vous ne voyez pas d'inconvénients, je serai votre conférencier pour ce soir. Alors, pour ceux qui ont lu nos publications, ceux qui vont sur notre site Internet, ont certainement remarqué que depuis quelques mois, on affirme assez souvent que nous sommes entrés, dans la plupart des pays occidentaux, dans une ère de ce qu'on appelle la grève de masse. Alors évidemment, toute la question est de savoir ce que c'est qu'une grève de masse. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Aussi, on va parler beaucoup de la personnalité, la personne qui a développé ce concept-là en 1906, qui s'appelle Rosa Luxembourg, une grande dirigeante de la gauche européenne. Donc, je vais vous présenter qui elle est un peu plus en profondeur. Et aussi de comprendre justement tous les processus économiques, là, ce qui est arrivé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, qui fait qu'on en est rendu dans la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, donc pour commencer par Rosa Luxembourg, ce qui est intéressant, en fait, on en parle beaucoup en Europe ces temps-ci parce que c'est cette année, c'est le 90e anniversaire de son assassinat en Allemagne, donc à Berlin en 1919. Rosa Luxembourg était d'origine polonaise. C'était une grande économiste politique, d'obédience communiste et marxiste, mais vous verrez qu'elle a été en même temps une critique très honnête de Marx. Il y a des choses avec lesquelles elle n'était pas d'accord et elle l'a expliqué de manière extrêmement approfondie. Et on pourrait dire que c'est les trois muses polonaises. Pour ceux qui connaissent Marie Curie, qui est de la même époque, Rosa Luxembourg est née en 1871. Et une autre que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Landowska, qui est une grande claveciniste de cette époque-là. Donc, ce sont vraiment trois personnes là, qui, si on peut dire, ont vraiment représenté l'avant-garde de la Pologne en Europe. Et c'était trois femmes. Donc, intéressant à soulever aujourd'hui. Et Rosa Luxembourg, à l'époque où elle est née en Pologne, où elle a grandi, la Pologne faisait partie de la Russie. La partie centrale de la Pologne faisait partie de l'Empire russe, comme la Finlande aussi. Et elle parlait couramment le russe, le polonais, mais aussi l'allemand, le français. Assez jeune, elle s'est retrouvée en Suisse, en exil, à cause de ses activités politiques. Elle a commencé à être active à l'âge de 16 ans, très impliquée dès l'âge de 16 ans. Et elle a fait son doctorat en économie politique à Zurich. Et ensuite, elle s'est retrouvée en Allemagne, elle est venue en France. Et elle a monté très vite dans la gauche, ce qu'on appelait la social-démocratie à l'époque. Il n'y avait pas de parti communiste à l'époque, il n'y avait que la social-démocratie. Et Rosa Luxembourg, dès l'âge de 18 ans, 20 ans, est devenue... Vraiment, c'était la femme qui faisait peur à tout le monde, vraiment, parce qu'elle était... Enfin, elle savait mettre les gens face à leur hypocrisie, surtout les gens de gauche à l'époque. Et c'est quelqu'un qui n'était pas là pour la carrière, c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement attaché aux conditions de vie des peuples. Et ce qui a été aussi sa marque déterminante, c'est que, en fait, ça a été l'une des seules... en Allemagne à l'époque, à s'opposer, mais vraiment jusqu'à la fin, à la Première Guerre mondiale. Pour elle, c'était clair que c'était absolument inadmissible. Et évidemment, de son point de vue, en tant que prolétaire de tous les pays, unissez-vous, pour elle, c'était clair que la Première Guerre mondiale, ça ne pouvait qu'être fait à l'encontre de l'intérêt des peuples européens. Alors, pour vous dire quand même... juste dans ce préliminaire-là, vous donner la contrepartie de ça. Il y a un autre socialiste très radical à l'époque, en Italie, qui était vraiment à gauche du Parti socialiste, qui était très opposé à la Première Guerre mondiale. Mais pendant la guerre, il a complètement changé. Il est devenu complètement en faveur de la guerre. Et en 1922, il a pris le pouvoir en Italie, et c'est Mussolini. Donc c'est important de voir un petit peu comment l'évolution des gens peut se faire. Et aussi à la lumière de beaucoup de gens de gauche aujourd'hui en Europe ou ailleurs qui ont soutenu la guerre d'Irak, bon, et ce genre de trucs. Donc voilà. Alors maintenant, donc en 1906, Rosa Luxembourg a écrit un document qui s'appelait « Grève de masse, partis et syndicats » que vous pouvez trouver sur Internet gratuitement en PDF. Et elle a écrit ça juste à son retour de Russie en 1905. Et je vous en parle un peu plus loin après. C'était vraiment une grande période de révolution en Russie. Il y avait vraiment, bon, ceux qui ont déjà vu le cuirassé Potemkin, le film de Eisenstein, donc ça vous donne une idée du genre de mouvement qui se passait à l'époque. Et Rosa Luxembourg était en Russie pour justement être sur le terrain, voir ce qui se passait. Et elle s'est retrouvée emprisonnée et expulsée de Russie. Et ensuite, elle a été emprisonnée pendant 3 ans. Elle a passé 3 des années là, de guerre en prison en Allemagne. Et ça, d'ailleurs, je tiens à préciser, ce livre-là vient juste de sortir en français. C'est une traduction de ses lettres de prison. C'est vraiment un très beau livre. Parce que là, on voit le côté... Rosa Luxembourg est présentée quelquefois comme quelqu'un de très dogmatique, orthodoxe. Comme certaines fois, on essaie de... Quand les gens ont des positions politiques tranchées, on essaie de les faire passer des doctrinaires. Mais en fait, c'était quelqu'un de vraiment très humaniste, très, très, très douce, en fait, très, très attaché vraiment à la condition de vie des gens. Alors, dans cet écrit-là, je veux juste... en fait, ce qu'elle dit, c'est... si vous voulez, à l'époque, il y avait toute une idée de... après 1905, disons qu'en Allemagne, il y avait un grand débat à savoir de ce que c'était que la grève de masse. Jusqu'à ce moment-là, le terme était utilisé uniquement par les anarchistes un peu partout en Europe centrale et de l'Est. Et c'était quelque chose de très romantique. Il y a toute une partie, surtout les mouvements politiques disaient « Oui, mais la grève de masse, un jour, on déclenche le gros cri et tout le monde sort dans la rue et vous verrez. » C'était comme un genre de gimmick pour arriver à un résultat politique. Et de l'autre côté, les syndicats, qui eux s'étaient beaucoup développés depuis les années 1890 jusqu'à la guerre, eux disaient « on n'a pas besoin de grève de masse, en fait on devrait même l'interdire, on devrait même en interdire la discussion, il ne faut surtout pas en parler, parce que ben, le vrai combat c'est d'aller chercher des adhérents, avoir de plus en plus de syndiqués, et il n'y a pas vraiment de combat politique à mener ». Alors, Rosa Luxembourg se moque de ça. L'autre partie que j'ai pris ce soir, c'est quand même, malgré tout, de m'appuyer sur pas mal de citations, parce que là encore, je veux vraiment vous amener à pénétrer sa pensée, avoir un sens vraiment de la richesse de sa pensée. Alors, je vais utiliser pas mal de citations, mais vous verrez, je pense que ça va être, ça va faciliter la tâche. Alors, déjà, donc, ce qu'elle dit sur ça, sur cette question, est-ce qu'on peut déclencher ou interdire une grève de masse? Alors, elle dit, c'est sur le même terrain de la considération abstraite et sans souci de l'histoire que se placent aujourd'hui, d'une part, ceux qui voudraient déclencher prochainement en Allemagne la grève de masse, à un jour déterminé du calendrier, sur un décret de la direction du parti, et d'autre part, ceux qui, comme les délégués du Congrès syndical de Hambourg, veulent liquider définitivement le problème de la grève de masse en interdisant la propagande. On refuse même d'en parler. L'une et l'autre tendance partent de l'idée commune et absolument anarchiste que la grève de masse n'est qu'une arme purement technique qui pourrait, à volonté, selon qu'on le juge utile, être décidée ou inversement interdite, tel un couteau que l'on peut tenir fermé pour toute éventualité dans la poche, ou au contraire ouvert et prêt à servir quand on le décide. Et ce qu'elle ajoute sur ça, donc c'est toujours par rapport à ce qu'elle a vu en Russie. Hein, c'est, là, elle était sur le terrain. Donc, elle dit, si le déclenchement des grèves dépendait de la propagande incendiaire des romantiques de la Révolution ou des décisions secrètes ou publiques des comités directeurs, nous n'aurions eu jusqu'ici aucune grève de masse importante en Russie. Il n'y a pas de pays où l'on ait aussi peu pensé à propager ou même à discuter la grève de masse que la Russie. La Révolution russe nous apprend donc une chose, c'est que la grève de masse n'est ni fabriquée artificiellement, ni décidée ou propagée dans un éther immatériel et abstrait, mais qu'elle est un phénomène historique résultant à un certain moment d'une situation sociale à partir d'une nécessité historique. Alors, évidemment, je vais faire assez souvent l'analogie avec la période d'aujourd'hui. Hein. Vous imaginez que c'est une question extrêmement intéressante pour tout mouvement politique qui veut vraiment changer les choses. Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, la population veut vraiment se mobiliser, changer les choses, alors qu'à un moment plus tôt, les gens sont résignés, sont très concentrés sur leur quotidien, sur leur famille, ont des illusions sur le système en place. Donc, vous imaginez que c'est vraiment une question essentielle. Cela dit, avant d'aller plus loin quand même, pour vous donner un sens, si vous vous souvenez, bon, on est quand même là encore en plein dedans, là, c'est le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et pour la plupart d'entre vous qui avez vécu ces événements-là, si on se met un petit peu dans le climat du temps, bon, c'était quand même pas évident en été 89 que le mur allait tomber. Il y a très peu de gens qui l'avaient dit ou qui avaient vu venir cet événement-là. Mais à partir du moment où les gens ont décidé de se mobiliser, c'était pas, et vous allez voir après, c'était pas juste un mouvement, isolé, un phénomène isolé. C'est comme une onde qui s'est répandue, en fait, dans une dizaine de pays d'Europe de l'Est. Et vous avez vu tous les régimes communistes tomber les uns après les autres. Donc ça donne quand même un sens de la puissance d'une grève de masse. Alors, ce que Rosa Luxembourg dit, justement, c'est que, en fait, la grève de masse, c'est pas un jour, on dit, on fait une manifestation, tout le monde descend dans la rue, et le lendemain, tout le monde rentre chez eux, va travailler comme si, souvent, vous savez, les grèves, ça se passe même les jours de congé, souvent, hein, pas trop, couper dans le salaire ou et elle, ce qu'elle montre dans son analyse, c'est qu'en fait le phénomène de grève de masse, on peut dire qu'il a commencé en Russie en 1896 et il y a des vagues différentes, ça vient et ça va, mais ce qu'elle dit, c'est à un certain moment, c'est l'ère du temps, c'est les conditions sociales et économiques qui font que à un certain moment ça se déclenche, mais ça ne veut pas dire que ça va mener tout de suite à la victoire qu'on voudrait. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en 1896, à Saint-Pétersbourg, il y avait eu une grève de 40 000 ouvriers qui avait été réprimée dans le sang. Et les choses semblaient calmées. Le tsar disait, on contrôle la situation, pas de problème. Et tout à coup, en 1904, ça a recommencé. Et ensuite, en 1905, ça s'est développé. Mais vraiment, c'était un foisonnement d'événements à travers tout le pays. Moi, l'image qui me vient à l'esprit, c'est comme des aurores boréales. Ça se promène comme ça, tout à coup, ça disparaît, puis ça réapparaît, puis ça peut traverser le pays entier ou juste une partie. Donc, vous allez voir un peu comment Rosa Luxembourg décrit ça. Alors, elle dit, « La grève de masse, telle que nous la montre la Révolution russe, est un phénomène si mouvant qu'il reflète en lui toutes les phases de la lutte politique et économique, tous les stades et tous les moments de la Révolution. Son champ d'application, sa force d'action, les facteurs de son déclenchement se transforment continuellement. Elle ouvre soudain à la Révolution de vastes perspectives nouvelles, au moment où celle-ci semblait engagée dans une impasse, et elle refuse de fonctionner au moment où l'on croit pouvoir compter sur elle en toute sécurité. Tantôt la vague du mouvement envahit tout l'Empire, tantôt elle se divise en un réseau infini de minces ruisseaux, tantôt elle jaillit du sol comme une source vive, tantôt elle se perd dans la terre. Grève économique et politique, grève de masse et grève partielle, grève de démonstration ou de combat, grève générale touchant des secteurs particuliers ou des villes entières, lutte revendicative pacifique ou bataille de rue, combat de barricade, toutes ces formes de lutte se croisent ou se côtoient, se traversent ou débordent de l'une sur l'autre. C'est un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuants. Vous voyez qu'elle a une pensée très riche. C'est pas c'est certains professeurs, je sais pas, d'université de Montréal, très académique. Donc, elle a une pensée très, comment je pourrais dire, très vivante. Hein? Elle n'a pas une idée toute faite. Elle regarde le phénomène avec toute sa complexité. Alors, elle dit, pour être encore plus précise, elle dit « Il est absolument faux d'imaginer la grève de masse comme une action unique. Si l'on considère les innombrables et différentes grèves de masse qui ont eu lieu en Russie dans la période récente, une seule variante, et encore d'importance secondaire, correspond à la définition formelle de la grève de masse, acte unique et bref de caractère purement politique, déclenché et stoppé à volonté selon un plan préconçu. Il s'agit là de la pure grève de démonstration. Toutes les autres grèves de masse partielles ou grèves générales furent non pas des grèves de démonstration, mais de lutte. Comme telles, elles naquirent spontanément à l'occasion d'incidents particuliers, locaux et fortuits, et non pas d'après un plan préconçu et délibéré. Et avec la puissance de force élémentaire, elles prirent les dimensions d'un mouvement de grande envergure. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu justement le cuirassé Potemkin. Il y en a qui sont des fans du cinéma, de répertoire et tout ça. Avec Eisenstein, oui. Et tout le mouvement a commencé parce qu'un jour, il y avait un gros morceau de viande plein de vermine qui était servi aux matelots. Puis, il y en avait marre. On dit, ça suffit. Et ils ont commencé à tout simplement dire, nous, on mange pas. Et puis, le capitaine du cuirassé est descendu. Il dit, non, vous êtes obligés. En fait, au fur et à mesure, sur le bateau, à force d'agir, il y a un officier qui commence à taper sur l'un des matelots. Les matelots se sont fâchés. Ils ont jeté un officier par-dessus bord. Et après, donc, le cuirassé s'est retrouvé dans le port d'Odessa. Et la rumeur s'est répandue dans toute la ville. Les gens sont venus dans le port manifester en soutien aux matelots. Et après, le tsar a envoyé l'armée, d'autres cuirassés pour vraiment là, venir remettre à la place le cuirassé Potemkin. Et à la fin, les autres cuirassés ont refusé tout simplement de tirer. Et donc, il y avait toute l'armée qui était du côté du peuple. Mais tout ça pour une histoire de bœuf pourri. Hein? Mais, donc, ça, c'est vraiment important de comprendre. Et je vous dis ça parce que, pour beaucoup d'entre nous, quand on mène un combat politique, on se dit, oui, mais on dirait que les gens, ils veulent rien faire, ils veulent pas se bouger. Qu'est-ce que ça va prendre pour les réveiller? Et la question, c'est qu'un jour où ça se déclenche, on va être les premiers surpris. On peut pas dire exactement quel jour, quel sera l'élément déclencheur qui fait que les gens seront dans la rue. Mais, comme je vais vous expliquer après, il ne faut pas dormir dans son coin, se lamenter, mais il faut être prêt à ce moment-là à prendre la direction du mouvement. Alors, si on regarde aujourd'hui, alors qu'est-ce qui est arrivé, où est-ce qu'on en est en Occident, là, depuis l'été qui vient de se passer? Nous, comme vous le savez, on est très impliqués aux États-Unis. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en plein mois d'août, en pleine vacances, si on peut dire, il y avait tout ce débat sur la politique de santé d'Obama. Tout le monde pensait que ça allait passer comme du beurre dans poil, que Obama est tellement gentil à l'égard là, des gens qui n'ont pas de couverture santé. Et pense que ça ne sort pas par là. Hein? Allô, bout, ça sort. Ah, oh, OK. Ouais. Non, c'est par ici, la sortie. Vous aussi. Ils ont peur des méchants communistes. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, donc avec tout la politique de santé là, cet été aux États-Unis, tout le monde pensait que ce projet de loi, le 31 juillet, aurait dû être voté par le Congrès, le Sénat, le 1er août, Obama aurait dû le signer. Or, au mois d'août, comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a eu toutes ces réunions avec les députés. Les députés américains, quand il y a un grand projet de loi, historiquement, là, c'est dans la tradition du pays que d'organiser des réunions avec les électeurs pour expliquer, essayer de rallier les gens au projet de loi. Et normalement, dans ces réunions-là, il y a une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de gens, là, les habitués. En général, la population n'est jamais trop aux aguets là, depuis une trentaine d'années. Or, cette fois-ci, au mois d'août, nous, on a recensé, pour le mois d'août, là, en un mois, on a recensé qu'il y a eu 300 000 personnes qui se sont présentées à ces réunions-là. D'ailleurs, c'était, souvent, ça avait eu dans une salle comme ça, puis il y avait 400 personnes qui attendaient dehors. Il y a des endroits, c'était dans des amphithéâtres, il y avait 3 000 personnes. Et vraiment, les députés ont eu peur. Ils ont dit, on ne sait pas ce qui se passe, on est en plein mois d'août, on pensait que les gens n'auraient pas le feu à leur... comment je peux dire, la puce à l'oreille. Et c'est ça qui nous a fait penser... C'est-à-dire, on s'est retrouvé vraiment devant le début d'une grève de masse. Alors évidemment, vous verrez, avec ce qu'on vient de décrire, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de continu qui va monter en crescendo là, de jour en jour. Ça peut se calmer pendant quelques mois si les gens, ben, les politiques, eux autres, les gens ont dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Ils ont dit aux députés, c'est nous autres le peuple, puis t'écoutes pas ce qu'on dit. Nous, on te dit, ce projet de loi-là, c'est hypocrite. C'est pas ce que vous dites. On a regardé les détails, et c'est pas de nous avoir. Et malgré tout, les députés font à leur tête, ils continuent la Chambre des représentants a voté. Sur ça, il reste le Sénat. Et, bon, les gens peuvent tomber dans un état de résignation temporaire. Mais ce qui est important de comprendre, comme je vous dis, c'est l'époque dans laquelle on est rentré. Et ce qui a vraiment changé depuis une trentaine d'années, c'est évidemment l'éclatement de la crise bancaire en juillet 2007, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Et là, on peut dire que les gens ont vraiment perdu leur illusion sur la mondialisation, sur la dérégulation... comme on pourrait dire, toutes les techniques d'ingénierie financière, sur le fait que la bourse va nous enrichir. Les gens n'ont plus d'illusions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la rue là, tout de suite, mais ils guettent le moment pour si vous voulez, faire connaître leur revendication. Alors, ce qu'il faut voir, c'est vraiment cet environnement dans lequel on est. C'est-à-dire, d'un côté, on vous dit, il n'y a pas assez d'argent pour soigner les personnes âgées, il n'y a pas assez d'argent pour entretenir les malades chroniques, les handicapés, ça fait exploser les déficits. Mais en même temps, quand il s'agit de renflouer les banques, tout à coup, on ne parle pas de déficit. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, les gens, ils ne sont pas si cons que ça. Je veux dire, avant, ils pouvaient se faire avoir. Au Canada, on s'est fait avoir avec le libre-échange, hein, en 89, 90, 91. Mais à un moment donné, le deux poids, deux mesures devient tellement fort. La crise, elle est là. Les gens continuent à perdre leur emploi, continuent à perdre leur maison. Vous avez une situation, il y a 2 ans, si vous regardez les gens qui recevaient des coupons alimentaires pour pouvoir manger, là, c'était 25% de ces gens-là étaient des gens qui avaient un emploi. Aujourd'hui, c'est 40%. Vous avez une situation, même si vous avez un emploi, on vous force à travailler 4 jours par semaine, puis après c'est 3. Bon, et les salaires bon, se dégradent très rapidement. Et les gens sont vraiment dans une situation où, que ce soit pour se loger, que ce soit pour manger, ça devient très difficile. Et ça, c'est sûr que ça ne va pas s'améliorer dans les mois, les années à venir avec la politique qui est aujourd'hui mise en place par les autorités. En vous donnant un exemple quand même, alors évidemment, comme vous le savez, on a été très critique d'Obama parce qu'il a accepté de se faire l'instrument de cette politique oligarchique. Mais il ne faut pas non plus, comment je peux dire, juste voir Obama. Il faut voir, si vous voulez, encore le contexte, l'ère du temps dans laquelle on est. Quand vous avez, cet été, il y a en septembre, en France, il y a un rapport qui a fait pas mal de bruit, écrit par le Fonds monétaire international, par leur économiste en chef, qui est français et socialiste. C'est le pote à Dominique Strauss-Kahn, qui lui est directeur général du FMI. Et lui, dans son rapport, il dit la reprise la stimulation de l'économie peut être prolongée si, au même moment, des mesures sont prises pour limiter la croissance des régimes sociaux des États, qu'il s'agisse de l'accroissement des dépenses de santé ou des retraites. Donc ça vient d'en haut, là, ça vient du FMI. Et quand vous avez un rapport du FMI qui dit qu'il faut que les États continuent à soutenir la reprise, parce que la reprise est là, mais c'est une reprise sans emploi, c'est une reprise sans richesse, c'est une reprise nouveau genre, et il faut vraiment que les États la soutiennent activement, sinon elle mourrait tout de suite. Donc, si les États doivent soutenir la reprise, bien évidemment, ça fait exploser les déficits. Hein? Parce que soutenir la reprise, ce qu'il ne dit pas, c'est soutien aux banques, puis soutien à des mesures de consommation. Alors, je ne sais pas au Canada le détail, là, s'il y a eu des mesures pour vous aider à acheter une nouvelle voiture, hein, des cadeaux du gouvernement, là, 1 000 euros. Je ne sais pas s'il y en a qui ont reçu des chèques du gouvernement pour acheter des cadeaux de Noël. Okay. Alors, mais en gros, quand ils disent des mesures actives de soutien à la reprise, là, c'est soit il faut aider les banques parce que les banques vont prêter, ou il faut encourager la consommation. Produire, oh ben ça, c'est... Tant qu'on a des Walmart et des entrepôts là, qui importent des affaires de Chine, même si on ne produit pas, c'est pas grave. Alors, et donc, la contrepartie, c'est de dire, ben, puisque ça fait monter les déficits, ben, il faut couper quelque part. Ben, la personne qui est accrochée dans son lit là, avec le respirateur artificiel, c'est pas elle qui va acheter un écran plasma. Hein? C'est pas elle qui va acheter le nouveau iPhone dernière génération. C'est pas elle qui va acheter un beau 4x4. Donc, non seulement elle sert à rien, elle produit pas, mais encore pire, dans le monde d'aujourd'hui, elle consomme pas. Les malades chroniques, ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, même chose. Ça, là, il faut se débarrasser de ça, si on veut vraiment relancer l'économie. Ça, c'est vraiment le discours du FMI. Et il faut comprendre, donc, la question, la bataille est contre cet esprit oligarchique. Évidemment, dès qu'il y a des personnes qui vont se faire des instruments de ça, comme Obama ou d'autres, on ne va pas les manquer. Mais ce n'est pas uniquement une question de telle personnalité parce qu'on n'aime pas qu'il y ait deux oreilles décollées ou je ne sais pas quoi. Là. Mais il faut vraiment comprendre l'ère du temps dans laquelle on est. Et ça, face à ça, donc il y a une autre question qui se pose, c'est-à-dire que effectivement, on peut dire que de toute façon la crise va s'accentuer, le système actuel peut pas résoudre la crise économique actuelle. C'est sûr que les politiques qui vont être mises en place vont être de plus en plus vicieuses et drastiques. Mais évidemment, il y a une question qui se pose souvent, c'est effectivement est-ce que la misère, à quel moment est-ce que la misère sera assez suffisante pour que les gens se mobilisent? Ça, c'est une autre question que les gens vont souvent poser. Ou à partir d'un certain moment, est-ce que la misère n'est pas trop grande pour que les gens puissent se mobiliser? Ça, c'est une question intéressante. Et une autre question, c'est aussi, est-ce que les médias de masse n'ont pas trop détruit les gens, la culture populaire? Est-ce que les médias n'arrivent pas à, si vous voulez, à manipuler les gens suffisamment pour que ils n'arrivent pas à se mobiliser. Ces trois questions-là, Rosa Luxembourg y répond. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, là, je vous lis ce qu'elle dit là-dessus. Alors, elle, quand elle a écrit « La grève de masse », donc elle était en Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, en 1906, ou en Europe occidentale en général, là, disons que les gens, quand on leur parlait des Russes, c'était des Slaves. Hein, c'était ouf. Ils ne sont pas aussi éduqués que nous autres. Ils sont un peu arriérés. Eux autres, ils ont eu une grève de masse parce que, parce que de toute façon, il n'y avait rien à perdre. Ou, en tout cas, il y avait toutes sortes de, si vous voulez, de rationalisation pour dire oui, mais ça ne peut pas venir en Allemagne. En Allemagne, on est trop sophistiqué, on ne peut pas le faire comme les Russes et se mobiliser. Alors, donc Rosa Luxembourg, elle répond à ce genre de choses. Donc, elle dit, dans une période révolutionnaire authentique, la masse de tous ceux qui actuellement se trouvent dans un état d'apathie politique apparente et sont insensibles à tous les efforts des syndicats et du parti pour les organiser, s'enrôlera derrière la bannière de la social-démocratie. 6 mois de révolution feront davantage pour l'éducation de ces masses, actuellement inorganisées, que 10 ans de réunions publiques ou de distribution de tracts. Et lorsque la situation en Allemagne aura atteint le degré de maturité nécessaire à une telle période, les catégories aujourd'hui les plus arriérées et inorganisées constitueront tout naturellement dans la lutte l'élément le plus radical, le plus fougueux et non le plus passif. Donc je pense que c'est vraiment important. Rosa Luxembourg était, comment je peux dire, c'est vrai, elle avait un doctorat en économie politique, c'était certainement quelqu'un de très rigoureux, une grande académique, mais c'était avant tout une femme d'action. Qui croyait vraiment à la vertu de l'action. C'est-à-dire, si les gens ont du mal à comprendre un certain nombre de choses, il n'y a rien de mieux qu'une fois qu'on se met à se battre, on apprend sur le tas, on est sur la ligne de feu, et c'est là où on s'aperçoit ce qu'on comprend pas ou ce qu'on ne sait pas, et on l'apprend au fur et à mesure. Alors ça, c'est aussi assez important. Au Québec, ce problème n'existe pas. Mais en France, les gens disent « Ah, il faudrait que je sache tout avant de m'activer, vous savez. Ah, vous savez, moi, c'est tout ou rien. Hein. Ah, quand je m'engage à fond. » Et ici, il n'y a pas ce problème-là. Les gens, ils n'ont pas l'impression qu'il faut tout connaître avant de s'activer. Mais en tout cas, Rosa Luxembourg donc, croyait vraiment à l'action et croyait vraiment à la capacité des gens de changer, mais vraiment très, 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 très rapidement. Alors, par contre, elle n'aimait pas tous les gens qui étaient installés dans leur habitude. Alors, elle était, disons qu'elle manque pas les syndicalistes. Alors, je vous dis ce qu'elle dit là-dessus. Elle dit les fonctionnaires syndicaux, du fait de la spécialisation de leur activité professionnelle, ainsi que de la mesquinerie de leur horizon, résultat du morcellement des luttes économiques en période de calme, sont devenus victimes du bureaucratisme et d'une certaine étroitesse de vue. Ainsi, cette crainte devant un risque important à prendre et devant de prétendus dangers qui menaceraient l'existence des syndicats, cette hésitation devant l'issue incertaine d'actions de masse d'une certaine ampleur, et enfin, la surestimation de la lutte syndicale elle-même. Alors, je vous rassure, Rosa Luxembourg n'est pas contre les syndicats. Okay. Mais elle dénonce une certaine évolution du mouvement syndical à son époque et le fait qu'ils s'étaient retranchés dans leurs petites habitudes, dans leurs postes et tout ça. Ça peut faire penser à certains syndicats aujourd'hui, un peu partout. Je pense que l'analogie est quand même assez forte. Alors elle dit, les dirigeants syndicaux en sont venus peu à peu à perdre le sens des grands rapports d'ensemble et de la situation générale. Ainsi s'explique, par exemple, que beaucoup de dirigeants syndicaux aient mis l'accent avec tant de complaisance sur les succès des 15 dernières années, sur les millions de marques d'augmentation de salaire, au lieu d'insister au contraire sur les revers de la médaille. L'abaissement simultané et considérable du niveau de vie des ouvriers, dû au prix du pain, à toute la politique fiscale et douanière, à la spéculation sur les terrains qui font monter les prix de manière exorbitante, qui fait monter les prix de manière exorbitante, bref, sur toutes les tendances objectives de la politique bourgeoise qui ont partiellement annulé les conquêtes de 15 ans de lutte syndicale. Alors, ça, c'est aussi important, on en reparlera tout à l'heure, mais l'une des grandes découvertes de Keynes, c'était que on peut tromper les gens, on peut... tout en défendant leur salaire nominal, si on baisse les taux d'intérêt à fond la planche et on imprime beaucoup d'argent, ce qu'il disait, c'est que, évidemment, on provoque une inflation qui fait que les gens, leur salaire réel va baisser sans qu'ils s'en aperçoivent. Et comme ça, on peut relancer l'embauche. Et Keynes est vraiment tordu, hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Là. J'encourage à aller voir ça. Et, vous allez voir, c'est un peu le contraire de ce qu'on vous dit dans les médias. Alors, pour toutes ces raisons-là, vous voyez, Rosa Luxembourg était convaincue que, que les conditions étaient pas mal réunies pour la grève de masse en Allemagne. Elle n'aurait pas pu dire, évidemment, quand ça aurait pu se déclencher. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'il faut qu'on se prépare. Ça peut arriver n'importe quand. Alors, évidemment, la question qu'on peut poser, c'est... elle a écrit ça en 1906. Est-ce qu'il y a eu une révolution communiste ou autre en Allemagne en 1907, 1908 ou les années qui ont suivi? Alors, d'une certaine façon, évidemment, on peut répondre non. Mais, évidemment, il y a eu la Première Guerre mondiale qui est venue vraiment... où finalement l'oligarchie en place a réussi à embourber les gens dans ce conflit-là. Au nom de la guerre, bien évidemment, il faut être derrière le régime, c'est pas le moment de faire des révolutions. Mais c'est vrai que dès la fin de la guerre, en 1918, le régime du Kaiser est tombé. Et ça a été le début de la République de Weimar en Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, mais Rosa Luxembourg dit que cette révolution-là était, j'utilise le mot, c'est pas elle qui le dit, là, mais une révolution bâtarde. Ce qu'elle dit, c'est... elle est vraiment pas... vous allez voir, elle ne mâche pas ses mots. Elle dit, on a eu une révolution le 9 novembre 1918, mais une révolution pleine d'insuffisances et de faiblesse, une révolution survenue après 4 ans de guerre, après 4 ans au cours desquels, grâce à l'éducation en guillemets, que lui ont fait subir la social-démocratie et les syndicats libres, le prolétariat allemand a révélé une dose d'infamie et de reniement de ses tâches socialistes qui n'a son égal dans aucun autre pays. Donc, c'est très sévère, hein? Il était extrêmement fâché. Et effectivement, quand elle est sortie de prison, je vais vous expliquer un peu après, mais tout de suite, elle a fondé la Ligue Spartacus, justement pour vraiment créer les conditions d'une vraie révolution. Ça, c'était à la fin donc, de l'année 1918. Et le 31 décembre, 1er janvier, il y a eu le grand congrès de fondation du Parti communiste allemand. Donc, c'est vraiment elle qui a créé le premier parti communiste en Europe. Et elle a été assassinée un mois après.
Elle avait quel âge?
Alors, elle est née en 1871. Donc, elle avait 48 ans. C'est ça, oui. Alors, donc, là, vraiment, face à ça, donc, comment est-ce qu'on peut... intervenir dans une période de grève de masse. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on ne peut pas déclencher le truc à volonté, on ne peut pas l'arrêter, comment est-ce qu'on agit dans ça? Alors, ce qu'elle dit, elle dit, il est hors du pouvoir de la social-démocratie de déterminer à l'avance l'occasion et le moment où se déclencheront les grèves de masse en Allemagne, parce qu'il est hors de son pouvoir de faire naître des situations historiques au moyen de simples résolutions de congrès. Mais ce qui est en son pouvoir et ce qui est en son devoir, de son devoir, c'est de préciser l'orientation politique de ces luttes lorsqu'elles se produisent et de la traduire par une tactique résolue et conséquente. Et évidemment, l'orientation politique, bon, là, vous allez reconnaître évidemment sa vision à elle. Elle dit, les luttes politiques, une fois ouvertes, l'objectif historique sera tout autre qu'aujourd'hui en Russie. C'est justement parce qu'en Allemagne, le régime bourgeois constitutionnel existe depuis longtemps, qu'il a eu le temps de s'épuiser et d'arriver à son déclin. C'est parce que la démocratie bourgeoise et le libéralisme sont parvenus à leur terme qu'il ne peut plus être question de révolution bourgeoise en Allemagne. Ainsi, une période de lutte politique ouverte n'aurait nécessairement en Allemagne pour seul objectif historique que la dictature du prolétariat. Donc, elle, pour elle, l'objectif, c'est pas juste de changer le Kaiser, de faire une république, de passer d'un régime... Évidemment, l'Allemagne n'était plus un régime absolutiste, comme c'était le cas pour les tsars en Russie. C'était un régime, une monarchie constitutionnelle. Mais évidemment, pour elle, ça n'allait pas assez loin, la défense des travailleurs. Donc, ce qu'elle disait, c'est qu'il n'y a que la dictature du prolétariat, donc vraiment une révolution communiste qui va résoudre le problème. Alors, disons que là, c'est à partir d'ici où, effectivement, nous, on serait en désaccord avec Rosa Luxembourg. Donc, jusqu'ici, on partage vraiment, si vous voulez, sa capacité de voir dans l'histoire, sa capacité d'anticiper, sa capacité de comprendre l'âme d'un peuple. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple, à un certain moment, peut bouger plus qu'à une autre période? On partage évidemment sa très grande honnêteté vis-à-vis des objectifs qu'elle défendait, contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui à gauche et à droite. Sauf que, évidemment, pour plusieurs raisons, est-ce qu'aujourd'hui, s'il y avait une grève de masse qui se déclencherait, et si nous, on décide d'intervenir pour essayer de donner une orientation politique, est-ce que notre objectif, ce serait, comme elle dirait, comment elle dit ça, la socialisation de tous les moyens de production, disons que déjà, ça ne marcherait pas beaucoup aujourd'hui parce que comme on ne produit plus rien, c'est assez difficile de nationaliser les usines, les moyens de production, les machines, il n'y en a pas. Donc, en plus, évidemment, il n'y a pas de masse de travailleurs organisés, comme c'était le cas à l'époque. On est dans une situation quand même un peu différente. Et l'autre chose, évidemment, et là, c'est là où je vais essayer de vous donner un peu plus, une analyse un peu plus fine, c'est que, bon, de toute façon, est-ce que vraiment le communisme a vraiment réussi à résoudre le problème des conditions de vie des travailleurs après 70 ans? Donc on peut avoir la conclusion que ça n'a pas été très efficace. Et par ailleurs, on peut montrer qu'il y a des périodes dans l'histoire de l'Occident dans l'après-guerre, ou même si on part depuis le New Deal de Roosevelt, mais aussi ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses, ce que de Gaulle a réussi à faire. Finalement, on a pu s'en sortir très très bien. Jusqu'à la dérive là, des années 70, on peut dire que le capitalisme, si vous voulez, arrivait à assurer une évolution du niveau de vie des gens. Alors évidemment, nous, bon, en tant que mouvement, ça fait déjà depuis 40 ans qu'on a combattu ces dérives-là, donc je pense qu'on est quand même bien passé pour en parler. On ne fait pas une analyse a posteriori. Déjà, il y a 40 ans, on avait dit que certaines dérives allaient nous mener à la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est quelle devrait être finalement cette orientation politique? Qu'est-ce que ça devrait être le noyau, le point central de ce pourquoi on devrait se battre dans les mois et les années à venir? Alors, évidemment, qu'est-ce qui fait que Rosa Luxembourg était quand même assez exacte dans sa compréhension des événements? Alors, elle, évidemment, elle analysait les choses du point de vue de l'analyse de Marx. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent la pensée marxiste ici, qui connaissent, qui ont lu, mais disons, la question centrale, c'est la loi tendancielle sur la diminution du taux de rendement. Et ce qu'elle disait, ou ce que Marx disait, c'est lorsqu'on a un capitaliste, le propriétaire d'une usine, lui, sa tendance, ça va toujours être d'amener des machines, de plus en plus de machines, essayer d'accroître ses capacités de production. Mais ce que Marx disait, c'est qu'au fur et à mesure où on ajoute des machines, en fait, ça coûte de plus en plus cher pour les entretenir et ça finit par se faire au détriment des salariés. Et à un certain moment, en premier moment, ça marche bien. Il y a vraiment une période d'expansion du capitalisme. Mais à un certain moment, il faut serrer la vis sur les conditions de vie des travailleurs pour non seulement que le capitaliste puisse évidemment engranger son profit, mais aussi entretenir les machines qui sont de plus en plus nombreuses. Alors, pour Rosa Luxembourg, quand elle regardait les années 70, 1870, 1880, 1890, elle voyait à quelque part qu'il y avait que malgré, comme elle disait tout à l'heure, on a l'impression que les salaires augmentent. C'est vrai que les syndicats sont puissants. Mais elle avait remarqué que depuis les années 90, qu'il y avait un genre de... Ça bloquait. Il y avait quelque chose qui faisait que la vie était de plus en plus tournée là, sur les conditions de vie des travailleurs. Et elle avait remarqué une chose aussi, c'est tout à son honneur, que ça correspondait à une période d'expansion impérialiste. Les années 1890-1900, la première décennie du 19e siècle, c'est vraiment une période où, tout à coup, il y a eu, avec la guerre des Boers et tout ça, il y a eu vraiment un durcissement là, impérialiste un peu partout dans les pays européens. D'ailleurs, par exemple, si on va, cet été, j'étais à la gare de Milan, en Italie, et c'est une gare absolument immense, et c'est le style impérial. Voilà, c'est un peu partout, dans toute l'Europe. En Angleterre, toute l'architecture du centre de Londres, là, Whitehall et tout ça, là, c'est le style impérial, c'est ça en jette, on contrôle la planète. Alors, par contre, ce que Rosa Luxembourg disait, c'est que l'impérialisme est la conséquence, justement, de la diminution du taux de rendement des entreprises. Et elle disait donc, et un autre problème qu'elle a soulevé aussi, qui était le problème des débouchés. Alors, elle a écrit tout un document qui s'appelle l'accumulation du capital. On dit que Marx, il y a un truc qu'il n'a pas compris, c'était que si on veut étendre la production, si le capitaliste doit acheter des nouvelles machines, les installer, il faut qu'il y ait du cash pour les acheter. Et pour avoir du cash, il faut qu'il vende ses produits. Mais pour vendre ses produits, la main-d'œuvre, par définition, avoir le salaire le plus bas possible. Et donc, dans le système de Marx, en fait, l'expansion du capital n'était pas possible. L'accumulation du capital n'était pas possible. Mais Rosa Luxembourg dit, pourtant, c'est arrivé. Si on regarde depuis des centaines d'années, il y a vraiment une accumulation du capital. Et elle dit que pour avoir des débouchés, ce que Marx n'avait pas pris en compte, c'est qu'une économie capitaliste, avec un système de prêts international, avec de grandes banques internationales, pouvait mettre en place des mécanismes qui permettaient de vendre des produits même à des pays non capitalistes. Il y a moyen de les bons Québécois de les fourrer là, et à quelque part de découler sa production. Mais même si vous allez voir notre approche à nous est un peu différente de ça, elle avait quand même vu la montée de l'impérialisme, la montée du colonialisme. Elle avait compris qu'il y avait vraiment un durcissement des conditions de vie des gens, alors que tout le monde ne le voyait pas. Et elle en avait conclu que tout ça créerait les conditions. Effectivement, il y aurait des grèves de masse qui éclateraient dans tout l'Occident. Alors, nous, là où on ne serait pas d'accord avec Rosa Luxembourg, ce serait de dire, comment je pourrais dire? En fait, intuitivement, même, elle a entrevu la solution, mais tout de suite, elle l'a comme par réflexe rejeté. Mais elle avait entrevu que quand on regarde dans les entreprises, lorsque le capitalisme développe les machines, c'est pas juste une quantité de machines supplémentaires qu'on met, Mais il y a un concept qui est vraiment important, qui est le concept finalement de progrès scientifique fondamental. Et le fait que les machines, les nouvelles machines qu'on entre, ben, elles fonctionnent sur des technologies qui sont complètement différentes de celles d'avant et où leur productivité augmente énormément. Et en fait, c'est ça qui permet en fait, d'augmenter les salaires des ouvriers, même d'augmenter le taux de profit et de compenser justement cette loi sur la diminution du taux de rendement de Max. Et elle le dit, comme je vous dis, là, dans son œuvre Accumulation du capital. Mais comme je vous dis, tout de suite, elle le refuse après. Elle dit, la productivité croissante du travail fait que le volume des moyens de production s'accroît plus rapidement que leur valeur. En d'autres termes, le prix des moyens de production diminue. Le prix des machines va diminuer parce qu'elles sont plus efficaces, plus productives. Comme il s'agit dans les progrès de la technique, non pas de la valeur, mais de la valeur d'usage, c'est-à-dire des éléments matériels du capital, on peut supposer que malgré le déficit en valeur, il y a jusqu'à un certain point une quantité suffisante de moyens de production pour poursuivre l'accumulation. Alors, c'est un peu difficile, hein? Je vous passe un peu vite, mais disons, là, la partie qui compte, c'est celle-ci. Elle dit, c'est le même phénomène qui, par exemple, freine la baisse du taux de profit pour n'en faire qu'une baisse tendancielle, comme Marx le dit. Elle dit, dans notre exemple, pourtant, parce qu'elle fait un exemple avant avec des calculs et tout, elle dit, la baisse du taux de profit ne serait pas freinée, mais totalement stoppée. Voilà. Parce qu'il y a un calcul qu'elle fait, elle a une situation où elle essaie de prendre en compte justement l'évolution technologique. Puis, effectivement, la baisse du taux de profit disparaît. Et si elle avait pris ça, puis elle avait continué là-dessus, probablement qu'elle aurait... et si elle n'avait pas été assassinée, parce qu'elle a écrit l'accumulation du capital en 1913, probablement qu'elle aurait, fait beaucoup de choses intéressantes. Mais nous... Donc, ça, c'est un des aspects sur lesquels on insiste beaucoup. C'est... Parce que finalement, si on dit « oui, mais justement, un jour, quand les capitalistes ajoutent les machines et tout ça, c'est de plus en plus lourd, ils vont serrer la vis, et à un moment donné, ben, les ouvriers vont se révolter, on va socialiser les moyens de production. » OK, on élimine le profit des capitalistes, mais même dans une économie socialisée, si on continue à empiler les machines, s'il n'y a pas de vrai progrès scientifique fondamental, la question va se reposer peut-être 10 ans ou 20 ans après. Et, parce que la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on améliore la productivité. Et même s'il n'y a pas de profit qui va aux capitalistes, il faut quand même, malgré tout, dégager les moyens nécessaires pour nourrir les gens, pour entretenir l'infrastructure, pour que l'État puisse se développer. Et donc, de ce point de vue-là, socialiser les moyens de production, en réalité, ça ne résout pas le problème. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose importante qui m'amène un petit peu à la fin de... Vous savez, après on ouvrira la période aux questions, c'est justement, finalement, d'où viendrait cette pression, à part, évidemment, un certain... si vous voulez, une certaine stagnation du progrès scientifique et technologique. Comment est-ce qu'on peut vraiment définir l'impérialisme? Cette volonté, finalement, de... Il y a ce phénomène où on durcit les conditions de vie des travailleurs. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu depuis une trentaine d'années. Finalement, à quoi est-ce que ça peut être dû? Et là, ça, c'est une question que Rosa Luxembourg n'a pas traitée, ni Marx, et qui, c'est là où nous, ce qu'on ajoute vraiment quelque chose de nouveau. Alors, ce que nous disons, c'est que... si on prend les moyens de production, si on peut dire l'usine et tout ça, de côté, on peut dire les travailleurs. Évidemment, si, comment je pourrais dire, on pourrait imaginer où les capitalistes, évidemment, viendraient chercher du profit de plus en plus le poids des machines ferait qu'on durcirait les conditions des travailleurs. Mais au-dessus, il y a un autre truc qui chapeaute tout ça, qui est le contrôle sur l'émission de monnaie. Si en amont, vous avez le contrôle, vous avez des intérêts privés, bancaires, supranationaux, qui ont le contrôle sur l'émission de monnaie, eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est quand ils émettent la monnaie, il peut faire en sorte qu'elle ne va pas nécessairement aller dans l'industrie, elle ne va pas nécessairement être prêtée aux capitalistes pour qu'ils achètent des machines ou qu'ils payent une certaine recherche scientifique fondamentale. Ça ne va pas aller nécessairement dans les salaires. Mais cet argent-là va se retrouver sous forme de ce qu'on appelle de capital fictif. Ça devient des agrégats d'argent. Plus ils sont gros, plus ils attirent l'argent qui existe déjà. Ils peuvent même siphonner l'argent qui existe déjà dans l'économie. Et ça devient des fonds qui vont être, si vous voulez, qui vont chapeauter les entreprises. Et nous, ce qu'on dit depuis 30 ans, c'est que même un industriel de bonne foi, si son entreprise, déjà si la banque à son égard se comporte de manière, vorace, si les actionnaires de la banque sont par exemple des fonds spéculatifs très agressifs, si les actionnaires des entreprises sont aussi des fonds spéculatifs très agressifs, si ces fonds-là agissent de concert avec leurs chevaux de Troie dans les banques centrales qui émettent la monnaie pour leur fin, vous avez une situation qui asphyxie complètement l'économie réelle. Et nous, ce que nous pensons dans la période de grève de masse qui s'ouvre avec tous les aléas, comme on dit, ça peut se calmer pour Noël, ça peut recommencer le lendemain dans tel pays, ensuite ça peut... Il n'y a rien qui nous dit que s'il n'y a pas une grève de masse qui démarre peut-être aux États-Unis, que ça peut se répandre au Canada, au Mexique très rapidement, en Europe, ou ça peut commencer en Belgique, ou ça peut commencer, on ne sait pas, en Espagne, peu importe. Mais je pense que ça peut sauter l'Atlantique là, sans trop de problèmes, okay, comme phénomène. La question, c'est justement, comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens cette importance de nationaliser l'émission de monnaie? Ça, c'est vraiment une des questions. Je ne dis pas que c'est la seule question. Ça, c'est... il y a la question de la culture, la question de l'éducation. Comment est-ce qu'on va réorganiser l'équipement, l'infrastructure? Il y a aussi le combat syndical à mener, que les lois soient respectées, que l'inspection du travail fasse son boulot et tout ça. Mais si on a une situation où l'émission de monnaie est dans les mains d'intérêts privés, si... Vous avez une situation où dès que l'État veut relancer l'économie, qui était obligé d'emprunter à 5 % auprès d'intérêts financiers privés, qui, eux, empruntent auprès des banques centrales à 1 %, vous vous dites, il y a un problème. Là. Pourquoi est-ce que l'État ne pourrait pas lui-même, sous certaines conditions, mettre de la monnaie pour les dépenses courantes, mais vraiment pour les dépenses d'investissement, pourquoi est-ce que l'État ne pourrait pas le faire directement? À 0,25%, par exemple, mais d'utiliser l'émission de monnaie directement pour financer le développement de l'économie. Alors ça, c'est vraiment la question clé, et on pense que si on fait ça, qu'on va, relâcher le joug sur les entreprises, j'imagine qu'il va falloir des lois aussi sur les formes actuelles d'actionnariat, il va falloir casser les cartels, rétablir des entreprises à taille vraiment, qui vont être plus respectueuses des coutumes, des différentes façons des différents pays de voir les choses. Donc, il va falloir faire pas mal de choses. Mais la question de l'émission de monnaie est vraiment centrale. Moi j'appelle ça le privilège des privilèges. Comme vous savez, dans l'Ancien Régime, avant la Révolution française, on avait une situation où vous aviez 5 % des gens qui avaient tous les privilèges. Soit ils les achetaient de naissance avec les charges et les postes qu'ils avaient. Vraiment, c'est une structure sociale qui ne bougeait pas de génération en génération. Non seulement il faudrait éliminer, évidemment remettre en question ces privilèges-là, mais ce privilège des privilèges qui est l'émission de monnaie. C'est vraiment de faire en sorte que ça devienne un outil, on pourrait dire un service public.
la monnaie comme service public. Pas seulement les transports, pas seulement la santé ou l'éducation, mais aussi la monnaie. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus que je m'arrête. Je pense que s'il y avait des questions, là, ça va permettre de mieux éclaircir. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord.
Oui, moi je suis interpellé par votre question sur la production de la monnaie.
Oui.
Lorsqu'on regarde dans les constitutions des différents États, c'est le privilège de chaque État de tirer sa monnaie. Ça n'a jamais été le privilège en particulier des gouvernements centrales.
Alors, si on regarde, disons qu'il y a, on peut dire qu'il y a une constitution qui est vraiment clair à ce niveau-là, c'est la Constitution américaine. La Constitution anglaise, la Banque d'Angleterre a été créée en 1696. C'est un groupe de financiers qui ont consenti un grand emprunt au roi d'Angleterre pour faire la guerre à la France. Et ils ont dit, en échange de ça, on veut bien faire cet énorme emprunt, mais c'est nous qui avons l'exclusivité sur l'émission de billets, de papier monnaie. Ça, c'était la contrepartie. Dans le cas de la France, 1720, si on prend la Banque Générale Privée, hein, elle dit ce qu'elle dit, hein, son nom, de John Law. John Law était, en France, ils disent John Lass. C'était un Écossais génial, grand mathématicien, il faisait des calculs, vraiment. Et puis quand il s'est retrouvé en France, il est devenu très ami du régent, c'est après la mort de Louis XIV. Et il a eu le droit de créer cette banque générale privée, avec tout un système d'action où les gens amenaient leur or, ils amenaient leurs bijoux à la banque, et ils devenaient actionnaires de la banque. Et aussi pouvaient ensuite avoir des billets pour payer. Et ça a marché 2 ans. Après, ça a été l'explosion absolument incroyable. Et si on prend dans l'histoire de la France, la création de la Banque de France sous Napoléon, ce n'était pas un organisme privé, public. C'était vraiment là encore un groupe, on appelait ça les 200 familles, qui étaient les actionnaires de la Banque de France. Et c'est seulement après la guerre que la Banque de France a été, si on peut dire, plus ou moins nationalisée. À ce que je sache, et je ne vous dis pas que je serais prêt à aller sur le bûcher, mais je suis à peu près sûr que ce n'est pas dans la Constitution française. Que l'émission de monnaie n'est pas dans la Constitution française. Ce n'est pas dans la Constitution canadienne. Ce n'est pas dans la Constitution, les autres constitutions européennes. Il n'y a qu'aux États-Unis. Alors, malheureusement, en 1913, il y a eu... je pense que c'était juste dans une période de... je ne me souviens pas si c'était le lendemain de Noël, mais en tout cas, ils ont réussi à faire voter la loi sur la réserve fédérale. Et c'est une trahison de la Constitution américaine. Alors, évidemment, l'un des problèmes, c'est que les Américains, ils n'ont pas trop regardé de près. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a d'autres Américains populistes qui vont dire, « Ah, mais c'est écrit « The Congress shall coin money ». Ah, le Congrès a la priorité, c'est lui qui a le droit d'émettre uniquement des pièces d'or. » Donc, eux, ils prennent ça à la lettre, là. C'est pas l'esprit. Mais en fait, shall coin money, dans ce cas-ci, c'est pas d'émettre juste des pièces métalliques puis on n'a pas le droit à des billets papier, là. C'était certainement pas la vision de Hamilton qui a contribué à la Constitution américaine. C'était pas la vision de Benjamin Franklin qui, à plusieurs occasions, a toujours défendu le papier monnaie. Il a écrit 9 documents différents là-dessus. Mais c'est clair que c'est le Congrès, c'est le gouvernement américain qui devra avoir le contrôle sur l'émission de monnaie. Or, évidemment, la Réserve fédérale n'est pas constitutionnelle de ce point de vue-là. Mais si vous connaissez un pays, là, vous pouvez m'amener la Constitution, puis ça dit, là, vous me rendriez un grand service, mais ça me surprendrait. Oui?
Vous avez parlé abondamment de Luxembourg concernant son intervention avec sa vision sociale du monde. Cependant, c'était des problèmes à l'époque et dans des articles récents que la solidarité et M. Larouche a traité, on voit que il y a des failles dans le matrice, et puis à ce moment-là, on fait voir ces grandes faiblesses, et il semble, dans les manettes dont vous avez abordé, que ça touche pas mal aussi les mêmes problèmes. Vous avez peu parlé de la dimension qui est aux États-Unis, de par sauf récemment dans les dernières paroles que vous avez ajoutées en parlant de Hamilton, et des aspects économiques. Est-ce que vous pourriez davantage approfondir votre pensée sur l'aspect plus vision américaine, qui à ce moment-là ne parle pas de ceux qui ont été au pouvoir comme Bush et compagnie, mais de ceux qui, en partant de la lignée des plus ou moins de demi-douzaine de bons présidents, et qui à ce moment-là peuvent donner des résultats beaucoup plus tangibles, et surtout, en ouvrant la parenthèse, avec les technologies et la science au profit de ce qu'on semble de vouloir rechercher.
Mmh. OK. Comment dire? Déjà, moi si j'étais justement, si on prend ce qu'on peut appeler le système américain d'économie politique, c'est avant tout, c'est pas une question de dogme, hein, on peut pas dire que, mais il y a une chose qui est claire, c'est on insiste beaucoup sur vraiment la créativité de l'individu. Ça, c'est vraiment, ça a l'air stupide à dire, mais il y a toujours eu cet optimisme. Pour vous donner un exemple précis, au lendemain du plan Marshall, quand les Américains sont arrivés en Europe, avec le plan Marshall, il y avait tout un problème sur... les Américains ont dit, OK, nous, on veut bien prêter de l'argent, même en donner. Deux tiers du plan Marshall, ça a été donné à l'Europe. Ils ont dit, c'est un effort immense. C'était entre 1 et 2 % ou même 3 % du budget américain à l'époque. On dit, on aimerait quand même avoir un droit de regard sur comment vous allez dépenser l'argent. Mais en même temps, on comprend bien que vous tenez à votre souveraineté et on ne veut pas non plus, là, vous mettre sous tutelle. Alors, il y a eu des ententes avec Jean Monnet à l'époque. Et une des choses qui était soulevée, c'est que, évidemment, pour la France, il y a une grande priorité qui était de reconstruire les chemins de fer, le charbon, l'électricité et tout ça. Le logement n'était pas beaucoup une priorité, contrairement à l'Amérique du Nord. Ça, c'était souvent une remarque qui venait. Mais une des choses aussi, un des grands problèmes, c'est que quand on essayait d'introduire la technologie dans les usines, les patrons étaient contre parce qu'ils disaient, nous autres, on ne veut pas faire des investissements qui bouffent notre profit immédiat. Puis de l'autre côté, les syndicats étaient contre parce qu'ils étaient convaincus que si on rentrait les machines dans les usines, qu'ils allaient perdre leur boulot. Et ça, en Europe, il y a toute la tradition, ce qu'on appelle les ludites. Il y avait des gens qui se révoltaient, qui cassaient toutes les machines parce qu'ils étaient convaincus que c'était ça qui était la cause à Lyon, notamment, et ailleurs, la révolution des canuts et tout ça. Et donc, il y avait un côté très réfractaire à la science et à la technologie. Et dans le plan Marshall, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé ce qu'ils ont appelé des missions de productivité. Ils ont dit, on va prendre des agriculteurs, on va prendre des patrons, des chefs d'entreprise, on va prendre des ouvriers, on va prendre des professeurs, on va les amener aux États-Unis, on va les amener dans les usines, puis ils vont voir comment c'est. Est-ce que c'est vrai? Parce que je vis en Europe, encore les gens, ils vont dire, le fordisme, le taylorisme. Les gens sont convaincus que, à les écouter, là, aux États-Unis, les années 50, surtout les gens de tradition de gauche, à les écouter, là, les États-Unis, c'était la pire misère du monde. Pourtant, tout le monde avait des toilettes dans la maison, tout le monde avait ceci, tout le monde avait cela. Puis en Europe, évidemment, il y a énormément de problèmes. Et ça, je pense que, en tout cas, d'un point de vue concret, là, ça, j'ai vraiment vu, là, en lisant la littérature à l'époque, concernant le plan Marshall, qu'il y a vraiment une vision de... une très grande différence. Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de tradition, évidemment, scientifique en Europe, qu'on soit en Italie, en Allemagne ou en France, mais c'est une vision scientifique qui était plus de dire, il y a les grandes écoles, il y a les grands scientifiques, et
disons qu'il s'était vu plus comme, c'est peut-être une bonne chose aussi, il s'était vu plus comme une passion vécue par certains, mais ça ne se transmettait pas toujours dans la population. Et encore pire que ça, c'était la Russie, bien entendu. Si on prend évidemment, si on prend en Russie, ils ont une tradition scientifique qui est extrêmement avancée, mais c'est souvent lié aux militaires. Et quand on voit comment ça se transmet concrètement là, dans la population, on ne le voit pas. C'est un des grands problèmes. Là, tous les penseurs russes qui écrivent sur ça disent qu'il faut vraiment qu'on trouve un moyen d'avoir cette courroie de transmission qui fait que la science est vue non pas comme quelque chose qui peut être utilisé comme privilège des élites, qui est la vision de Bertrand Russell, hein, si vous lisez toute la littérature anglaise là-dessus. La science est quelque chose, ça peut être utilisé pour l'eugénisme, ça peut être utilisé pour le contrôle social, ça peut être utilisé, mais pour la population, non, il ne faut pas, c'est dangereux. Alors, l'autre aspect de ça, je pense, qui montre bien, c'est justement le programme Apollo de Kennedy. Je veux dire, le type dit, voilà, on va mettre les moyens qu'il faut, on va aller sur la Lune, parce que c'est difficile, on va le faire. Dans bien des pays, là, étant donné l'immensité des budgets impliqués, il y a bien des pays qui auraient dit non. Mais les pays qui auraient dit, mais qu'est-ce que c'est ça, aller sur la Lune? Les Américains étaient vraiment pour, ils étaient vraiment contents. Mais en plus, Kennedy avait mis en place tout un système de crédit aux entreprises. Et lui, il avait dit, moi, là, le crédit à l'investissement, ce n'est pas les actionnaires. Ce n'est pas un crédit qu'on va donner aux actionnaires, c'est un crédit qu'on va donner aux entreprises. Lorsqu'elles ont montré qu'elles ont introduit telle ou telle ou telle technologie, elles pourront déduire ça des impôts de l'entreprise. Mais ce n'est pas une aide aux actionnaires. Et il y a eu je pense que c'était 200 000 entreprises aux États-Unis, de toute nature, des petites, des moyennes, des grandes, qui étaient liées au programme spatial et qui tout de suite prenaient les technologies du programme spatial et qui les disséminaient dans l'ensemble de l'économie américaine. Et ça a été une cause de très, très grande croissance. Et puis évidemment, l'objectif a été tenu, ils sont allés sur la Lune et tout ça. Ça, je pense que ça montre bien vraiment ce côté-là positif ou unique de l'esprit américain. Mais évidemment, si on pense à l'époque, déjà Benjamin Franklin, tout de suite, c'était quelqu'un qui utilisait l'imprimerie pour pour disséminer le savoir, que les gens apprennent à lire. Il essayait toujours d'améliorer toutes les inventions qu'il faisait. C'était tout de suite, il voulait qu'on voit un impact sur le niveau de vie des gens. Mais en même temps, quand il a fait sa première expérience sur l'électricité, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais ça sert à quoi, ça? » Et il a dit « À quoi sert l'enfant qui vient de naître? » Donc, il avait ce côté, comment je pourrais dire, je dirais pas pragmatique, mais je dirais… Il y avait un côté pratique et un côté cognitif, disons que la spéculation intellectuelle… ça lui plaisait énormément. Et ça aussi, c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est quand même, quand on parle de Benjamin Franklin en Europe, c'est vrai qu'ils vont le voir comme le sage américain qui a su faire sa fortune aussi. Il a su faire de l'argent. Il savait s'amuser. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait vraiment un sens de l'utilisation des pouvoirs du public, de l'État, du gouvernement, pour le bien-être général. Et ça, je pense que c'est très, très, très typiquement américain. Alors évidemment, si on regarde depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est plus ça qu'on retrouve, et c'est ce que nous, on essaie de faire revivre. Voilà, ça vous donne quelques éléments. Peut-être qu'on pourrait faire toute l'histoire des États-Unis d'un bout à l'autre, mais moi, je le vois là, quand je suis en Europe. Il y a, il y a, En Europe, il y a un esprit qui est très pessimiste, en fait. Très, où les gens ont tendance à se noyer dans l'intellectualisation des choses, où ils vont dire, bah oui, on fait une révolution, regardez à quoi ça menait, à la restauration, tout tourne en rond, ça revient toujours au même. Il y a un genre de pessimisme en Europe qui est assez fort, et on pense qu'on va pouvoir le casser plus à partir de la Russie, de la Chine, de l'Inde, des États-Unis. Je pense que les Européens seront prêts à se joindre au mouvement, mais dans notre évaluation des choses en ce moment, on ne voit pas là, que les Européens vont se libérer de leur chaîne par eux-mêmes. Ils vont le faire, mais l'envie va venir de l'extérieur. On va dire, hey, les autres font ça, et nous autres, pourquoi est-ce qu'on tolérerait ça? Donc, mais ça, l'inspiration va venir de l'extérieur.
Et depuis deux siècles, voire environ, je veux dire qu'ils ont été drôlement domestiqués à penser que le système d'empire monarchique, etc., les trois premiers, ce n'est que quelques esprits bien pensants qui se sont dit, bon, ça va venir d'ailleurs, et c'est mieux des États-Unis, et en général, l'idée est mise de l'avant. Tantôt, quand vous avez parlé de l'exemple de l'après-guerre, c'est très bien.
L'exemple de?
L'exemple de l'après-guerre avec le plan Marshall.
OK, oui. OK.
C'est très bien. Cependant, les Américains ont plus appris, par la force des choses, à mettre le bœuf en avant de la charrue qu'en arrière de la charrue. Et ça avait des résultats. Et actuellement, je donne cet exemple parce que, actuellement, dans le développement qu'on semble de vouloir donner, et je lis régulièrement religieusement Nouvelle Solidarité, il y a des idées particulièrement brillantes concernant, entre autres, ce qu'on veut mettre de l'avant et ce qui s'est passé récemment en Chine versus la Russie et les projets mis de l'avant et qui, à ce moment-là, fait que le but à l'avant de la chose. En d'autres mots, on veut tirer et ça va entraîner parfois des choses bien aux autres. C'est pour ça qu'on attendait ce soir à ce qu'il y ait pu y avoir quelque chose de très actuel, très imaginatif et surtout de nature à être inspirant, alors que Rosa Luxembourg a bien fait son travail dans son temps, elle est morte, et qu'il y a eu évidemment des choses plus ou moins négatives qui aujourd'hui sont bien plus, sont toutes défoncées ou à peu près. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bon sens là-dedans, là. Mais l'idée inspirante,
ben,
ça semble être quelque chose depuis le dernier
an. Ben, l'idée inspirante, on a des idées, on en a plein. Je pense qu'elles sont très inspirantes. Mais la question qui se pose souvent, et là je vous invite à venir avec nous dans la rue plus régulièrement, comme militant, vous allez voir que souvent, vous avez beau avoir l'idée la plus inspirante là, qui soit, ben, la question c'est qu'est-ce qui fait que les gens, ils la trouvent pas inspirante. Alors, c'est pour ça que de comprendre, c'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans une période de grève de masse? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on est prêt à faire en sorte que ces idées inspirantes... Là, parce que, vous voyez, la bataille, on va la gagner là, à la marge. Ça va se gagner. Là. On n'est pas un gros mouvement. Il faut quand même être honnête là-dessus, réaliste. Mais on est un mouvement qui sait mettre le doigt exactement sur le point faible du système. Et Larouche dit, pas de faux combats. Là. Moi, je ne veux pas des troupes qui partent dans tous les sens sur des combats... sur le terrain contrôlé par l'ennemi. Parce que on peut gagner, mais on peut gagner si on comprend qu'on rentre dans cette période de grève de masse. Et donc, ce n'est pas le temps de se plaindre, de gémir dans son coin, de dire, ah, ben, vous savez, bon, vous êtes très optimiste, je l'apprécie, mais il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ben, regardez, ils ont renfloué les banques, c'est toujours la même chose, et puis ça va repartir comme avant. Et vous essayez de dire, par exemple, ben nous... Le fait d'avoir renfloué les banques, elles se sont remises à spéculer, et donc ça prouve qu'on avait raison, que c'est ce qu'elles feraient si on les renflouait. Et les gens te disent, ah ben oui, c'est reparti comme avant, encore pour 20 ans. Mais je dis, là, vous ne comprenez pas ce que c'est que la grève de masse. vous ne comprenez pas les conditions sociales, économiques et tout ça. Et Rosa Luxembourg est quelqu'un qui a vraiment compris ça. Et si vous, ce soir, vous avez compris ce point-là, après, on peut refaire d'autres réunions sur des questions inspirantes, effectivement, sur ce potentiel. Bon, qu'est-ce que ce que la Chine et la Russie, en quoi est-ce qu'ils peuvent créer les conditions pour changer les choses dans les mois à venir, ou pourquoi est-ce qu'il faudrait aller sur Mars, qu'est-ce que ça peut apporter pour l'économie sur Terre et tout ça. Mais on ne peut pas tout traiter, là. C'est vrai que j'ai délibérément et volontairement concentré la question sur ça. Est-ce qu'on est dans une grève de masse? Si oui, ben bougeons-nous. Et puis ceux qui le nient, ils vont être pris comme sur le tsunami, là, sur la plage en Thaïlande, dans des activités peut-être pas nécessairement les plus recommandables.
Qui espérait parler principalement des milliards qui ont été comme du crédit acheté par les régimes chinois et qui est converti à une nouvelle émission d'obligataires qui à ce moment-là était si un pouvoir qui a un poids décisionnel est beaucoup plus fort comme effet de levier qu'un simple individu ou un groupe, une poignée d'individus, que ce soit en Chine ou ailleurs, au Canada ou ailleurs. Et je regarde aussi, là, c'est un fait marquant qui semble déterminer avec plusieurs projets actuellement dans le collimateur, mais je regarde en particulier, mettons, au Québec, quand on regarde, par exemple, notre histoire banale par rapport au reste du monde. Prenez juste un titre d'exemple. Lorsqu'on a voulu prendre en main la Régie fédérale du Québec dans les années 60, à ce moment-là, au Canada, il s'installe un régime qui se veut national et sur lequel l'argent va dans la caisse. Le Québec dit au contraire, nous autres, on s'inspire de quelque chose qui va créer une réserve et à ce moment-là, on va bâtir quelque chose. Et c'est tellement important qu'il a fallu, au fin de l'année de 1964, que M. Pearson et M. Lesage aient paraffé la Constitution à Londres pour qu'à un moment donné, on ait le OK. Mais partant de là, c'était déterminant. D'autres mots, on a bien souvent des lois potentiellement mettables en marche et des idées qui vont être innovatrices et qui vont donner des résultats et que le commun des mortels, lui, n'a pas cette connaissance, n'a pas ses moyens avec un multiplicateur comme, par exemple, ces choses-là. Et on peut en citer d'autres un peu partout dans le monde. Est-ce que pour ça, ça ne serait pas plus inspirant?
Comme je vous dis, ces idées-là, moi, je pense tellement qu'elles sont inspirantes, qu'elles sont dans Nouvelle Solidarité puis sur notre site. Mais là, je voulais voir si, comme je vous dis, peut-être qu'il y aurait d'autres questions. Parce que, bon, vous avez dit, je suis têtu, là, mais la question de la grève de masse, c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour des raisons que j'ai quand même évoquées, là. Et je pense que ça peut tenir à cœur aussi à beaucoup d'autres gens. Puis après, on peut revenir. Vous m'avez fait penser à un certain nombre de choses, là, mais juste voir quand même, s'il n'y a pas d'autres questions là, sur ce qu'on a dit, là, ou est-ce que j'étais méchant contre Marx ou. Oui?
Sur la réserve fédérale, que pensez-vous de la victoire récente de Ron Paul pour l'audit, Hall of Fame? Pensez-vous de
la réserve fédérale? Oui. C'est sûr qu'on ne va pas se plaindre là, de cette victoire-là, mais c'est juste d'avoir un droit de regard, un droit d'audit, de voir les noms. Oui, mais nous, on avait mis la barre un peu plus haute. On avait dit, c'est pas juste d'avoir un droit de regard, c'est de prendre la réserve fédérale et la mettre en faillite. Là. Puis c'est urgent. Alors, vous me direz, c'est un pas...
Son roman qui a sorti, ça s'appelle End the Fed.
Mais lui, mais je nie pas que Ron Paul veuille nationaliser la réserve fédérale. Je dirais qu'il est plutôt étapiste dans sa fonction de fonctionner. Nous, on est plus sur le mode révolutionnaire. C'est bien pour ça qu'on s'intéresse à Rosa Luxembourg. On pense qu'on peut tout faire d'un coup. On peut ramasser la mise, là, vraiment. De l'alpha à l'oméga. On n'a pas besoin d'y aller étape par étape. parce qu'on n'a pas le temps. Mais si Ron Paul, pendant ce temps-là, gagne une étape, on ne va pas s'en plaindre, ça, je vous assure, là. Mais disons que si on peut faire aller encore plus vite là, et tout de suite dire aux gens, mais écoutez, dès maintenant, il faut déclarer un congé bancaire, là, fermer les banques pendant 2 semaines, envoyer les inspecteurs, faire le tri dans les créances légitimes, se débarrasser des créances illégitimes, et en même temps, se débarrasser de la Fed. On ne parle même plus de la nationaliser. À ce point-ci, c'est trop tard. Le gouvernement s'empoisonnerait en essayant d'avaler la Fed. Il vaut mieux la mettre en faillite puis remettre en place une nouvelle banque nationale à ce point-ci. Mais donc notre approche est plus ambitieuse, je dirais, ou disons plus rapide. Comme je vous dis, je ne vous dis pas que Ron Paul. Là. Mais un des problèmes, par contre, de Ron Paul, c'est que ben, c'était quand même le conseiller de Reagan sur les questions économiques. C'est quand même quelqu'un qui a une vision très libérale de l'économie. On aimerait bien qu'il fasse un pas en plus et qu'il dise, ben, c'est vrai, je me suis trompé sur ça, je suis prêt. Disons, moi je pense qu'il gagnerait beaucoup à écouter Larouche encore un peu plus. Je pense j'imagine qu'on a des contacts avec lui, là. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'il devrait aller beaucoup plus... Il devrait vraiment essayer de voir là, en quoi, chez Larouche, cette question de la créativité comme vrai moteur de l'économie, là. Ça, c'est pas juste bon, la liberté d'entreprise, il y a vraiment une question de parce que l'autre aspect, c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu un piège dans lequel je me suis mis, parce que je vous dis, l'objectif principal, c'est de voir, ou un des objectifs, ce serait la question de l'émission monétaire. Mais s'il n'y a pas une politique de grands travaux à l'échelle mondiale, clairement définie, une politique scientifique, et vraiment, justement, une locomotive qui va nous tirer de l'avant, comme le projet de colonisation de Mars, on aurait beau avoir la meilleure politique monétaire, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment faire tout ça en même temps. Et ça, ben, il se trouve que... quand on va voir des gens comme Ron Paul, ils ont plus un...
Vous l'avez dit vous-même, c'est de changer l'argent d'un système de crédit.
Je ne dirais pas que c'est la première étape. Je dirais que c'est quelque chose d'important qu'il faut faire maintenant, mais simultanément avec les autres choses qu'on a discutées, une politique de grands travaux, très rapidement, s'entendre à l'échelle mondiale. Parce que juste, même si on avait la meilleure politique monétaire, il faut vraiment identifier très clairement, en tant qu'objectif politique, les secteurs d'avancée scientifique et technologique dans les 10 prochaines années. Si on laisse ça dans les mains des scientifiques tels qu'ils sont aujourd'hui, ça risque pas de répondre à la question de qu'est-ce qu'on va faire là, pour doubler la production de nourriture d'ici 30 ans. C'est une question... donc il y a vraiment une démarche à suivre là-dessus, pourquoi il faut aller dans l'espace, et pour nous c'est la Russie, l'Inde et la Chine et les États-Unis, disons, on va dans l'espace, là, on déclare un programme après-demain, puis on définit des objectifs, on ne dirait pas attendez, hein, il faut une politique monétaire d'abord, non, on dirait on fonce, et la politique monétaire peut devenir un instrument.
Le système pour présentement, ça va avec l'intérêt qui est imposé, avec toutes les dépenses, ça va détruire le système avec le système financier.
En tout cas, comme je vous dis,
il faut avoir un système de crédit, de création d'argent.
Mais vous n'avez pas besoin de me convaincre là-dessus. Là, on ne va pas couper les cheveux en quatre. Je pense que j'étais assez clair sur l'importance que j'accorde aux questions monétaires. Mais je ne veux pas que ça devienne un sujet en soi. Parce qu'un des grands problèmes en politique, c'est qu'il y a souvent des gens qui ont des marottes, ils ont leur truc, puis il y en a, c'est l'avortement, il y en a d'autres, c'est justement, il y en a qui c'est l'espace, il n'y a rien d'autre là. Mars, puis vous ne parlez plus, nous autres, ça fait 20 ans qu'on parle de programme spatial, puis les dernières années, les gens se plaignaient, là, vous ne parlez pas de l'espace, mais attendez, là, vous ne parlez pas de l'Afrique, vous voyez, mais nous autres, on ne fonctionne pas, on est. socratique, on est platonicien, on regarde les choses en termes dynamiques et ce n'est pas les choses en soi. Ça, c'est vraiment important. C'est la même chose, j'ai essayé de vous donner un sens que la grève de masse, ce n'est pas la révolte contre la réforme de santé d'Obama. C'est un élément en ce moment qui est important. Après-demain, ça peut être la guerre d'Afghanistan, mais si c'est un truc en soi, si les gens ne comprennent pas c'est quoi l'oligarchisme, c'est quoi l'impérialisme, c'est quoi l'état d'esprit des impérialistes depuis des millénaires, ça inclut la question de la monnaie, le contrôle sur la question de l'émission de monnaie, mais c'est aussi une façon de voir la science, de comprendre ce que c'est que l'hypothèse versus la logique déductive-inductive. Donc et c'est ce qui fait que je pense qu'on est quand même unique comme mouvement, là, parce qu'on a vraiment, moi je pourrais dire, une vision assez globale. Oui? Pas gentil, non. Non, mais ça sous-tend la question, justement, la grève de masse. Est-ce que une grève de masse, c'est quelque chose de, je dirais, d'inévitable de par les conditions dans lesquelles on vient d'entrer avec l'explosion du système? Et est-ce que l'oligarchie trouvera toujours le moyen, avec tout leur centre de recherche, de comportementalisme, de ceci, de cela, est-ce qu'ils vont toujours trouver le moyen, finalement, d'empêcher que ça arrive? Bien, évidemment, si on lit 1984 de George Orwell, lui, ce qu'il prétend, c'est qu'un régime très malin peut réussir à faire en sorte qu'il n'y ait jamais de rébellion. Il peut anticiper les rébellions, les récupérer, et à la fin, le type finit « I love Big Brother ». Et donc, la tyrannie parfaite, selon George Orwell, elle existe. Il prétend écrire ça contre la tyrannie, mais en réalité, il essaie de montrer que la tyrannie parfaite existe. Or, Lincoln disait « We can fool some of the people all of the time, or all of the people some of the time, but not all of the people all of the time. » Ben, est-ce que l'esprit humain peut vraiment être domestiqué? Est-ce qu'avec toutes les méthodes, que ce soit manipulation de masse individuelle, émotionnelle, intellectuelle, physique, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut avoir une dictature parfaite? Moi, je pense que c'est contre la nature humaine. Donc, et en plus, effectivement, s'ils réussissent éventuellement à empêcher qu'une grève de masse se développe, c'est la civilisation qui s'effondre. Dans ce cas-là, même eux, à ce point-ci, il n'y a personne qui est gagnant. Donc, mais ce qu'on pense, c'est que si on regarde ça d'un point de vue, bon, Shelley, qui est un très grand poète, qui a écrit « Le masque de l'anarchie », qui a écrit, justement, lui, il a écrit cet essai sur l'éloge de la poésie. Et pour lui, les poètes, si on regarde dans l'histoire, depuis la Grèce, bon, en tout cas jusqu'à son époque, les poètes sont là justement pour comprendre l'esprit d'un peuple. Et ce qu'il disait, c'est que des fois, on a une situation où on pense que les gens sont vraiment stupides, qu'un peuple est vraiment endormi, stupide. Et puis tout à coup, du jour au lendemain, vous avez cette éruption où les gens vraiment sortent. Et je pense que l'oligarchie, je ne pense pas qu'elle comprenne vraiment ce que c'est la poésie. Je ne pense pas qu'elle comprenne ce que c'est que l'art. Je ne pense pas qu'elles comprennent ce que c'est que la science et je ne pense pas qu'elles comprennent vraiment ce que c'est que la nature humaine. Puisqu'elle part du point de vue que l'homme n'est pas différent de l'animal. Maintenant, si vous pensez qu'ils ont raison, ben, dans ce cas-là, ils vont trouver les moyens qu'il faut pour nous tenir en laisse. Mais moi, je pense qu'ils ont tort. Et je pense que l'histoire de l'homme sur 2 millions d'années, a montré que la nature humaine est différente de la nature animale. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans les 10 ou les 20 prochaines années? Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne prétend pas, on n'est ni des Mayas, on n'est pas non plus Nostradamus, mais je pense qu'on a... comment je pourrais dire, une certaine compréhension de l'âme des peuples. On est en contact avec les gens au jour le jour dans le monde entier. Et on est vraiment, comment je pourrais dire, notre raison d'être, c'est de se battre pour l'intérêt des gens. Et je pense au final, je pense qu'on va se tromper moins que l'oligarchie. Je pense qu'ils vont pas vraiment, à mon avis, là, je pense pas qu'ils vont vraiment réussir à nous domestiquer pour de bon. Mm-hmm. Alors, je sais pas si ça répond à la question, là, mais... Mm-hmm. Oui?
Ma question touche sur une autre grève de masse qui n'a pas fonctionné si bien. Révolution française. Il n'y avait pas des idées construites dans la révolution américaine. Et en fait, il y avait dans une discussion récemment, Larouche, il a dit que Napoléon, quand il est rentré, il était le plus grand héros de la Bretagne. Et pour moi, je sais que, comme tu as mentionné, il y avait des banques privées qui contrôlaient l'administration, whatever, de Napoléon. Mais j'espérais que tu pouvais peut-être clarifier comment ça a créé l'Empire britannique comme on le sait aujourd'hui.
OK. Disons, il ne faut jamais prendre Larouche à la lettre. Il aime bien faire des raccourcis aussi, puis en général, je trouve que c'est assez. Comment je peux dire? Quand on creuse, on s'aperçoit que c'est vrai, là. Mais finalement, est-ce que Napoléon était vraiment payé? Enfin, on vient de découvrir que Mussolini était vraiment payé par les Anglais. On vient de trouver les chèques, vraiment. Là, on sait combien il recevait tous les mois et tout ça. Ça vient de sortir. On sait que Danton recevait des chèques de services anglais. Ça, c'est prouvé. Napoléon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais disons, si je mettais du point de vue de l'Empire anglais... déjà, évidemment, la Révolution française, l'esprit d'Amérique qui débarque, bon, ils l'ont vu venir, là, c'est sûr. On dit, c'est sûr qu'il faut qu'on trouve un moyen de détourner ça. Et évidemment, ils ont payé Danton, les gens les plus radicaux pour, discréditer une certaine faction de la Révolution française. Parce que quand on parle de Révolution française, en fait, il y avait 5 ou 6 révolutions simultanées. Donc, il fallait voir, tu fais partie de quelle révolution, toi? Et ça, c'est très difficile d'y voir plus clair là-dedans. Mais à partir du moment où, évidemment, ils se sont tous zigouillés les uns et les autres, Napoléon a réussi à prendre le pouvoir, à transformer la République en empire. Donc, moi, je vois mal comment est-ce qu'on peut défendre une République puis être républicain puis défendre l'héritage de la Révolution si on transforme ça en empire. Donc, déjà, c'est un problème. Et après, évidemment... est-ce que... contre qui se battait Napoléon? C'était avant tout l'Empire austro-hongrois. Ben, il se trouve que pour les Britanniques, c'était quand même une bonne chose. Ça, c'est indéniable. Il y avait un grand empire en Europe, à part l'Empire britannique. C'était l'Empire austro-hongrois. Ça, on peut dire de ce point de vue-là, donc il a été très utile à la cause britannique. En tout cas, il n'a jamais envahi l'Angleterre. Je crois que ça a été discuté. Il y a eu des tentatives qui ont été qui ont échoué. Et Napoléon a fait en sorte que jamais l'Angleterre soit envahie. Et ça peut sembler aujourd'hui bizarre de dire ça, mais c'était vraiment une question très réelle sur la table à l'époque. Et en plus, évidemment, en se lançant contre la Russie, là, il faudrait regarder l'histoire sur 200-300 ans. C'est sûr que les Anglais ne voyaient pas l'émergence de la Russie là, comme pouvoir, que ce soit comme empire ou pas. Ils ne voyaient pas ça d'un bon œil. Mais Napoléon s'est cassé la gueule en Russie. C'était certainement pas au plaisir des Anglais. Après, évidemment... c'est vrai qu'en tant qu'empereur, on peut dire qu'il a vraiment tué l'esprit républicain une bonne fois pour toutes. Et évidemment, la manière dont, en plus, bon, il a créé des saccages immenses dans toute l'Europe, des guerres, mais vraiment, où il y a eu énormément de morts, ça finit avec la Restauration. Donc, il a fallu attendre 30 ans après pour que réémerge de manière très faible dans la plupart des pays européens un idéal républicain. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que Napoléon, on peut dire que pour les Anglais, indirectement, on peut dire au moins, ça a été bien commode pour eux. Alors je ne peux pas dire plus parce que il faudrait que vous invitiez Jacques Cheminade venir ici. Là, je vous en parlerai de manière beaucoup plus précise, mais c'est un peu ce que je peux dire. Oui?
Moi, je voulais te poser une question parce qu'il y avait, il y a un an, environ un an, La Roche avait écrit un papier sur l'impérialisme britannique. À l'époque, c'était pas la guerre de masse, mais il avait mentionné que tu avais Rosa Luxembourg, et Jean Jaurès, qui avait bien compris en fait, à l'époque, au début du 20e siècle, la question de l'impérialisme financier britannique. Puis bon, je ne sais pas comment le concept aussi de grève de masse, mais je n'ai pas entendu autant parler de Jean Jaurès récemment, que ce soit par Lynn ou d'autres. Mais je ne sais pas, avec la proximité, justement, comment vous en avez parlé en France aussi,
il y a
un débat là-dessus.
Je dirais en France, Jean Jaurès, il est omniprésent. Mais en fait, très peu de gens le lisent. Et je fais partie de ceux-là. Malheureusement. Il faudrait que je m'y mette, vraiment, là, que je décide de lire Jean Jaurès, mais c'est quelqu'un bon, qui a un engagement très vaste, qui a beaucoup écrit. J'avais commencé sa thèse philosophique, L'arité du monde sensible, et j'ai pas eu le temps de vraiment de la travailler, de m'y consacrer. Et ben, c'est une chose que j'espère faire la prochaine fois. Mais disons que le point commun, quand même, qu'il avait avec Rosa Luxembourg, c'est qu'il savait vraiment montrer l'hypocrisie de la gauche de son époque. Il a fait aucun compromis sur la question de la Première Guerre mondiale. Et pour toute la gauche européenne, c'était, comme je disais tout à l'heure avec l'histoire de Mussolini, est-ce que on voit la guerre comme quelque chose qui est... Est-ce qu'on se laisse embarquer dans les nationalismes tels qu'ils étaient définis à l'époque? Quand les événements ont prouvé que la Première Guerre mondiale a été une boucherie absolument inutile, et ça n'a pas été dans l'intérêt des peuples européens. Par contre, le pays qui en a vraiment, là c'est sûr, qui a connu son apogée, c'est l'Angleterre. L'Empire austro-hongrois s'est effondré au lendemain de la Première Guerre mondiale. La Russie s'est effondrée. L'Empire turc ottoman complètement effondré. La France avait perdu 1 million d'habitants. L'Allemagne complètement, elle aussi, très durement touchée. Et c'est vrai que là, c'était vraiment le... Je pense que c'est vraiment au lendemain de la Première Guerre mondiale, en fait, je ne veux pas dire des bêtises, mais que, où là, on pouvait affirmer que le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. C'est vraiment, là, c'était vraiment les beaux jours de l'Empire. Mais Jaurès avait compris ça. Maintenant, et c'est pour ça qu'il a été assassiné, justement à la veille de la guerre. Mais je ne peux pas aller plus dans les détails, parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire là, comme j'aurais voulu.
Et dans ces lettres, est-ce qu'on a la source d'inspiration de Luxembourg, qui est, par exemple, elle est très critique de ce qui se passe en Allemagne, ça ne change pas, qui fait qu'elle ne se décourage pas pareil.
Alors, je veux dire, quand je lisais, les lettres viennent de sortir cet été, donc à chaque fois que j'en lisais quelques-unes, je les photocopiais pour tous les collègues dans le bureau. Certaines d'entre elles qui sont mais vraiment très punchy, je peux vous en lire deux, trois choses. Mais toutes ces lettres-là, en général, je dirais, à première vue, elles sont apolitiques parce que, évidemment, elle est en prison et elle savait très bien que tout était lu. Mais il y a plusieurs lettres que ça passait sous une fausse. En fait, il y a plusieurs occasions où les gens ne savaient pas qui elle était. Les gardes de prison, et elle avait des bon, elle avait quand même fait sortir des choses. Mais ce qui ressort de ça, c'est évidemment, elle le dit, elle a ses moments de très grand découragement, même qui l'affaiblissent physiquement. Mais ce qui ressort, bon, par exemple, je veux dire, c'était une très grande passion pour les idées. C'est-à-dire, par exemple, elle s'intéressait énormément à la botanique. Et elle connaissait là, vraiment toutes les plantes de A à Z par cœur. Et dans le coin du jardin, parce qu'une des prisons où elle était pouvait sortir dans le jardin, un petit jardin. Puis elle connaissait là, vraiment chaque brin d'herbe. Et elle pouvait vraiment se laisser émerveiller par la nature. Les nuages, les oiseaux. Elle connaissait tous les chants d'oiseaux, mais vraiment par cœur. Elle explique comment les oiseaux devenaient ses amis. Elle connaissait leur mais vraiment, elle savait que les mésanges cendrés partaient de tel mois à tel mois, qu'elle pouvait revenir 3 mois après, c'était la même. Les enfants, comment ils les élevaient. En fait, elle avait une connaissance vraiment... quand elle se passionnait de quelque chose, elle allait vraiment jusqu'au bout. Et l'autre chose... attendez, c'est quoi une autre grande passion qu'elle a développée? En fait, la littérature, elle recevait, elle s'arrangeait pour recevoir plein de livres. Et c'est vraiment intéressant comment elle décrit certaines des grandes œuvres littéraires de son moment. Par exemple, elle avait remarqué que Shakespeare, je ne sais pas à quel point vous connaissez les œuvres de Shakespeare, les pièces de Shakespeare, mais la vision qu'il avait de la femme était extrêmement évoluée des siècles et des siècles en avance. Et ça, elle connaissait toutes les pièces de Shakespeare par cœur, elle connaissait tout Schiller par cœur. Elle aimait beaucoup la musique, donc elle parle beaucoup de ce genre de choses. Et mais qu'est-ce qui ressort, c'est, je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle finalement qu'elle abandonnera jamais? Ben ça, je peux vous lire deux passages, vous allez voir si je peux les... Ouais, ben ces deux lettres, la pauvre, vous verrez. C'est une dame qui s'appelle Mathilde Vorme, qui était une copine, une militante de la première heure, qui, elle, s'est un peu rangée dans les rangs. Et donc, elle lui envoie une première lettre parce que Mathilde se plaignait un petit peu des méchancetés du pouvoir en place vis-à-vis des socialistes et tout. Alors, je pense que ça vaut la peine que je vous la lise, vous allez voir. Elle dit, « Ma chère Tilde, donc c'est en 1916, elle est en prison, donc on est en pleine guerre, là. Elle dit, « Je tiens à répondre sur le champ à ta lettre de Noël avant que ne retombe la colère qu'elle a fait naître en moi. Oui, ta lettre m'a mise en rage, parce que si courte soit-elle, chaque ligne montre à quel point tu es retombé sous l'emprise de ton milieu. Ce ton géniard et ces jérémiades à propos de déception, entre guillemets, que vous auriez subi, imputable aux autres soi-disant, alors qu'il vous suffirait de vous regarder dans une glace pour voir la réplique la plus parfaite de ce que l'humanité a de plus pitoyable. Voilà maintenant que tu dis « nous » pour parler de ce tas de grenouilles nauséabondes, alors qu'autrefois, quand tu étais avec moi, « nous » désignait ceux de mon bord. Alors, attends voir, je vais t'en donner, moi, du « vous ». Vous avez trop peu d'élan à mon goût, dis-tu mélancoliquement. Trop peu ne serait pas si mal. Vous n'avez pas d'élan du tout, vous rampez. Ce n'est pas une différence de degré, mais de nature. Au fond, vous êtes d'une autre espèce zoologique que moi, et vos personnes chagrines, moroses, lâches et tièdes ne m'ont jamais été aussi étrangères. Je ne les ai jamais autant détestées qu'aujourd'hui. Ça vous dirait bien d'avoir un peu d'élan, écris-tu? Seulement après, on se retrouve au trou, et là, on ne sert plus à grand-chose. Soi-disant, Rosa Luxembourg est en prison et ne sert à rien. Ah, quelle misère que vos âmes d'épicier! Vous seriez prêt à la rigueur à montrer un peu d'héroïsme, mais seulement contre monnaie sonnante. Et tant pis si on ne vous donne que trois pauvres sous moisis, pourvu que vous voyez toujours le bénéfice sur le comptoir. Et n'ont pas été dit pour vous les mots tout simples de cet homme honnête et droit, citation, « Je suis là, je ne puis faire autrement, que Dieu me vienne en aide. C'est une aubaine qu'à ce jour, l'histoire du monde n'ait pas été faite par vos semblables, sinon nous n'aurions pas eu la réforme et nous en serions sans doute encore à l'ancien régime. Pour ce qui est de moi, qui n'ai jamais été tendre, je suis devenu ces derniers temps dur comme de l'acier poli, et plus jamais je ne ferai la moindre concession, ni en politique, ni dans mes relations personnelles. Il suffit que je me rappelle la galerie de tes héros, pour que ça me flanque un cafard noir. Le gentil Haas, c'est des personnalités socialistes de l'époque, Dittmann, avec sa jolie barbe et ses jolis discours au Reichstag, Kautsky, le pâtre vacillant, suivi fidèlement, comme de bien entendu, par ton Emmanuel, pour le meilleur et pour le pire, Arthur le magnifique, ah, je n'en finirai. Je te le jure, j'aimerais mieux rester enfermé des années, et je ne dis pas ici, où je suis à tout point de vue comme au paradis, mais même dans le sale trou d'Alexanderplatz, ou dans ma cellule de 11 mètres cubes, sans lumière le matin ni le soir, coincé entre le WC et le lit de fer, je réclamais mon Meurike plutôt que de lutter, si l'on peut dire, aux côtés de vos héros ou simplement d'en avoir avec eux. Je préfère encore le comte de Westarp, et pas parce qu'il a parlé au Reichstag de mes 12 yeux en amende, mais parce que c'est un homme, lui. Je te le dis, dès que je pourrai mettre le nez dehors, je prendrai en chasse et harcèlerai votre bande de grenouilles à son de trompe, à coups de fouet, et je lâcherai sur elle mes chiens. J'allais dire comme Pantélisilé, mais par Dieu, vous n'êtes pas des Achille. Ça te suffit comme des vœux de nouvel an? Et puis, fais donc en sorte de rester un être humain. Ça, c'est l'essentiel, être humain. Et ça, ça veut dire être solide, clair et calme, oui, calme, envers et contre tout, car gémir est l'affaire des faibles. Être humain, c'est, s'il le faut, mettre gaiement sa vie tout entière sur la grande balance du destin. Une citation de Goethe. Tout en se réjouissant de chaque belle journée et de chaque beau nuage. Je ne sais pas, hélas, donner de recettes. Je ne sais pas dire comment on est fait pour être humain. Je sais seulement comment on l'est. Et si tu le savais, toi aussi, chaque fois que nous nous promenions quelques heures... Non, et tu le savais, toi aussi, chaque fois que nous nous promenions quelques heures dans la campagne de Zudende et que les rougeoiements du soir se posaient sur les blés. Le monde est si beau malgré toutes les horreurs, et il serait plus beau encore s'il n'y avait pas des pleutres et des lâches. Allez, va, je te fais un baiser, car tu es, malgré tout, un brave petit gars. Bonne année. Je vais vous lire la deuxième lettre, et je m'arrête là, mais sinon, ça vous donne... Toujours à Mathilde. Voilà, celle-là est un peu plus... Ouais, je vais essayer de la lire un peu plus vite. Alors, ma chère Tilde, bien reçu, lettres, cartes et gâteaux secs, merci beaucoup. Alors ça, c'est en février 1916, donc c'est un an après. N'aie pas peur, bien que tu aies si courageusement paré mes attaques, et même si tu me déclares la guerre, je te garde la même bienveillance. Je n'ai pu m'empêcher de sourire en lisant que tu veux me combattre. Ma fille, je suis bien calé sur ma selle. Personne encore n'a pu me faire mordre la poussière et je suis curieuse de voir celui qui en sera capable. Mais j'ai souri d'une autre chose encore. C'est qu'en fait, tu ne veux pas du tout me combattre et tu m'es attaché, y compris sur le plan politique, bien plus que tu n'oses te le dire. Je resterai toujours ta boussole, parce que ta nature droite te dit que je possède le jugement le plus infaillible. C'est qu'il n'y a pas de trace chez moi de tous ces phénomènes parasites, la peur, la routine ou le crétinisme parlementaire qui perturbe le jugement des autres. Toute ton argumentation contre ma devise « Je suis là, je ne puis agir autrement » revient à dire « Tout cela est bien beau, mais les hommes sont trop lâches et trop faibles pour un tel héroïsme. Ergo, adaptons notre tactique à leur faiblesse et aux principes. Qui va piano, va sano. » Qui va lentement, va sainement. Mon petit agneau, quelle vision étriquée de l'histoire. Il n'y a rien de plus changeant que la psychologie des hommes. Là, on revient à ce qu'on disait sur la grève de masse. D'autant que la psyché des masses renferme toujours en elle, comme Thalassa, la mère éternelle, toutes les possibilités latentes. Un calme de mort et la tempête furieuse, la lâcheté la plus vile et l'héroïsme le plus fou. La masse est toujours ce qu'elle doit être, selon les circonstances historiques, et elle est toujours sur le point de devenir tout à fait autre que ce qu'elle paraît être. Il ferait un joli capitaine, celui qui ne mènerait son navire qu'en fonction de l'apparence momentanée de la surface des eaux, et ne saurait déduire les tempêtes à venir, des signes présents dans le ciel et dans les profondeurs. Ma petite fille, être déçu par les masses, entre guillemets, pour un dirigeant politique, c'est comme un zéro pointé. Un dirigeant de grande envergure ne règle pas sa tactique sur l'humeur momentanée des masses, mais sur les lois d'airain de l'évolution. Il s'en tient à sa tactique en dépit de toutes les déceptions, et pour le reste, il laisse l'histoire tranquillement mener son œuvre à maturité. Sur ce, terminons ce débat. Oui, je resterai volontiers ton ami. Quant à continuer de t'instruire, puisque tu me le demandes, c'est de toi que cela dépend. Et là, elle continue. Je m'arrête là. Alors, je pense que ça te répond bien. Oui, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce que... Elle se laisse jamais, déterminer par les apparences. Elle sait vraiment aller dans le fond de l'âme humaine et elle sait qu'il y a quelque chose, qu'il y a un moment. Et à d'autres passages, par exemple, l'accumulation du capital, elle dit, oh, je l'ai écrit, ce sera lu par une demi-douzaine de personnes. Mais je l'écris quand même. Alors évidemment, ça a été lu par des... des centaines de milliers après. C'est très drôle aussi, une autre lettre sur sa chatte. Elle avait sa chatte qui s'appelait Mimi. Et à un certain moment, quand elle va en prison, elle demande à sa domestique de prendre soin de la chatte. Elle dit, c'est la mission la plus délicate que je puisse donner à quelqu'un. C'est que tu vas devoir prendre soin de ma chatte et il faut que tu amènes ceci, cela, cela. Et n'oublie pas le fauteuil en feutre rouge. Et tout ça devrait rentrer dans la voiture. Et donc, vous voyez, parce que là, vous voyez un côté qui est très déterminé, mais ce n'est pas doctrinaire. C'est en même temps très humain. Et en fait, elle ne se laisse pas aller. Elle peut se fâcher, se mettre en colère, mais elle ne se laissera jamais aller au mépris, soi-disant, pour la bêtise humaine. Tout ce que j'entends là, dans cette gauche en France, au Québec, j'en sais rien, mais toute cette gauche de 55 ans, là, qui, par tous les moyens, essaie de trouver des prétextes pour prendre sa retraite bien tranquillement. Alors que maintenant qu'il ne travaille pas, il pourrait se battre plus que jamais. Ah non... Oh, vous savez, la nature humaine. Oh, vous savez, l'homme est tellement mauvais. Donc voilà. Mais je vous encourage à l'acheter. Mais ça complète bien ses écrits politiques. Parce que ses écrits politiques sont très rigoureux, très. Je propose qu'on arrête là. Break syndical.